Une autre vie s'invente ici.
Une autre vie s'invente ici.
L'équilibre énergétique en question.
Énergie renouvelable,
bâtiment,
transport,
sobriété énergétique,
économie circulaire.
On en parle dans cette émission coproduite par Radio Larzac, Radio Saint-Afrique et le Parc naturel régional des Grands Causses.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Une autre vie s'invente ici. Depuis quelques mois, nous consacrons cette série d'émissions à la recherche de l'équilibre énergétique sur le territoire du Parc naturel régional des Grands Causses. Après la rénovation des bâtiments, les outils de production, le réseau de chaleur bois, nous allons parler aujourd'hui de la sobriété énergétique et des comportements permettant de réaliser des économies d'énergie. Comment adopter ces éco-gestes dans notre vie quotidienne, à la maison, au travail, dans nos loisirs et dans nos modes de déplacement? Pour en parler, nous avons réuni plusieurs invités autour de cette table. Philippe Ramondinck, vous êtes membre du bureau syndical du Parc naturel régional des Grands Causses, président de la commission économie. Bonjour.
Oui, bonjour, c'est ça.
Voilà. Avec vous, nous parlerons, nous rappellerons les objectifs du plan climat-énergie territorial. Nous verrons également en quoi la sobriété énergétique est le meilleur vecteur d'économie d'énergie. Et enfin, nous parlerons des actions du parc pour aider au changement de comportement.
Exactement.
Victor Magimel, vous êtes animateur pour le défi Famille à énergie positive au parc.
Oui, c'est ça.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous nous parlerez du défi Famille à énergie positive. En quoi consiste ce défi? Qui peut y participer? Et quels sont les outils mis à disposition des participants?
C'est ça.
Enfin, Gilles Guillot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un citoyen éco-responsable?
J'essaye.
Ou en passe de le devenir, tout au moins? Vous participez donc au défi Famille à énergie positive. Vous nous parlerez des gestes que vous avez mis en pratique, de l'implication de votre famille dans ce défi. Et comme vous êtes capitaine d'équipe pour ce défi, vous nous expliquerez également comment vous vous y prenez pour animer et dynamiser votre équipe.
Très bien, quand vous voulez.
Voilà, alors Philippe Ramondinck, on va commencer avec vous. Pouvez-vous nous rappeler quels sont les objectifs du plan climat-énergie territorial?
Disons que cet objectif, c'est bien sûr d'essayer de réduire les consommations qui sont de l'ordre de 2222 gigawattheures par an et de les amener à peu près d'ici à 2030 à 1400 gigawattheures. Donc pour cela, effectivement, il faut agir à la fois sur les comportements mais aussi sur les équipements. Les comportements quotidiens. Bon, moi, c'est vrai qu'à côté d'être élu au parc, je suis aussi enseignant et nous avons une politique au niveau de l'établissement, à savoir de sensibilisation auprès des jeunes, puisque cette année, nous avons mis en place un club d'éco-citoyens pour essayer, bien sûr, de sensibiliser à la fois tous les acteurs de l'enseignement, mais surtout les jeunes, puisque ce sont les futurs citoyens qui feront le territoire de demain. Nous avons besoin donc de nouvelles formes d'énergie renouvelables. Donc l'objectif du parc, c'est de rentrer dans ce plan climat et bien sûr de tout mettre en œuvre pour que ces objectifs soient atteints. Voilà. Donc l'objectif, c'est bien sûr d'augmenter la production avec de nouvelles énergies. On peut parler de l'éolien, on peut parler de
du photovoltaïque,
aussi de l'isolation des bâtiments. Donc ça, c'est très très important, mais aussi sur le fait d'économiser l'énergie, aussi par un changement, une modification des comportements quotidiens. Voilà les principaux objectifs. Alors c'est vrai que ce plan climat, je crois que c'était au mois de juin, qu'on avait accueilli Madame Ségolène Royal à Nantes, et donc bien sûr les principaux objectifs avaient déjà été définis avant. Et là, on est dans la mise en œuvre, l'application. C'est quelque chose de longue haleine parce que, bon, effectivement, aussi autour de l'éolien ou du photovoltaïque, on a aussi parfois quelques soucis. Hein. Les gens ont peur. Il faut beaucoup expliquer, beaucoup faire comprendre que c'est important pour demain, à savoir que l'économie d'énergie, puisque c'est un coût aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi mettre en avant le travail du parc et de tous ses techniciens. Voilà, bon, l'essentiel est peut-être dit. Je n'ai peut-être pas tout dit, à savoir que la sensibilisation fait aussi partie de cette politique volontariste du parc.
Alors, cette consommation d'énergie sur l'ensemble du territoire, elle se répartie pour grande part à la fois sur le transport et sur le bâtiment, qu'il soit résidentiel ou tertiaire. Alors comment faire passer auprès de la population le message sur la sobriété énergétique ?
Alors justement, le parc organise, et je pense que monsieur Guillot, excusez-moi, vous en parlerez aussi bien que moi puisqu'il en fait partie, savoir ce concours sur les familles qui participent à cette sensibilisation sur cette politique-là. Nous, dans notre cadre d'élus, mais aussi de professionnels de l'enseignement, moi j'organise personnellement avec des collègues, notamment de sciences naturelles, de SVT plutôt, CSVT maintenant, des visites au parc pour justement sensibiliser toute cette jeunesse sur ces nouvelles énergies et sur ce fait qu'il soit important d'être dans ce comportement de développement durable. On le voit aussi dans les programmes nationaux de l'éducation nationale, notamment 5e, où c'est extrêmement important. La sensibilisation, c'est du quotidien, apparemment. C'est surtout des gestes quotidiens sur le tri, sur l'information, sur ce qui est existant et ce qui peut se faire aussi sur le territoire sans justement dénaturer aussi ce territoire et trouver un équilibre. L'objectif, c'est ça aussi pour le parc, c'est trouver un équilibre entre la préservation de l'environnement, le développement des nouvelles énergies, la création d'emplois, parce que c'est extrêmement important, mais aussi la formation. Et je crois qu'en matière de formation, il existe aussi des formations intéressantes, notamment dans le Centrafricain, par rapport à l'éolien.
Alors, outre le défi famille à énergie positive, dont on parlera avec Victor Magimel et avec Gilles Guillot tout à l'heure, par quels moyens le parc peut-il agir pour faire changer les comportements ?
Donc pour le grand public, le parc agit notamment par des opérations comme organisées sur la nuit de la thermographie. Essayer de voir un peu quels sont les bâtiments publics et privés qui sont bien isolés et voir où on pourrait agir justement pour développer ces économies d'énergie. La création d'animations diverses, des conférences, des débats citoyens, des spectacles, des visites de sites et leur intervention aussi dans les établissements scolaires. J'insiste, j'y tiens, parce que je trouve que c'est très important. Donc c'est vrai que c'est mené aussi par l'intermédiaire d'opérations d'audit énergétique, de bâtiments publics, de santé et touristiques, de logements sociaux et de copropriétés. Bon, on peut peut-être vous donner quelques chiffres aussi.
Oui, tout à fait.
120 bâtiments publics, 10 de santé, 10 touristiques, 15 copropriétés, 35 logements sociaux et d'autres sont à venir. Et bien sûr, avec la volonté de créer des liens entre le parc et les différentes communes et communautés de communes, justement pour insister auprès des élus afin qu'ils puissent prendre conscience que c'est important aussi de faire des économies d'énergie et d'aller vers le monde de demain, justement, pour essayer d'obtenir ce qu'on a, une véritable autonomie énergétique et d'arriver à peut-être à 100%. Aujourd'hui, on est à 40% d'autonomie énergétique, dont l'objectif serait du 100% d'ici 2030.
Donc cet équilibre énergétique, il va s'obtenir à la fois par la réduction des dépenses en énergie et par l'augmentation de la production.
Voilà. Donc une augmentation de la production d'énergie renouvelable et en plus aussi une véritable politique et une volonté de changer les habitudes. Donc c'est en fait une double action que le parc doit mener. Il y met les moyens et on sait très bien que le plus difficile, ce sont les mentalités qui doivent changer. Et c'est là-dessus qu'il faut agir. Donc il faut aussi agir sur les mobilités, notamment ce qu'on appelle l'éco-conduite, favoriser par exemple pour l'apprentissage à conduire les voitures, donc des simulateurs de conduite. Développement aussi du covoiturage sur le secteur du parc. Alors je ne connais pas le chiffre exact du nombre de d'aires qui ont été mis en place, mais il y en a quand même.
Des aires de covoiturage. Également le réseau Pousse sur le Centrafricain.
Le réseau Pousse aussi, donc le fait de développer aussi une certaine solidarité entre les citoyens, c'est aussi faire des économies. Voilà. Donc, bon, il y a aussi une réflexion en cours sur la mutualisation de l'offre en transport en commun entre notamment Millau et Centrafrique. Savoir que les navettes de bus entre Millau et Centrafrique aussi sont très importantes. C'est l'axe le plus utilisé au quotidien. Alors là aussi, on pourrait développer sur le chiffre. Il est assez important. Je crois que c'est 800 camions par jour. Des bus, je crois qu'il n'y en a pas loin d'une centaine. Hein. Donc c'est quelque chose de très important. Et effectivement, réduire la diffusion de gaz à effet de serre, c'est aussi important et c'est là-dessus qu'il faut agir. Donc c'est aussi le rôle du parc.
Mais malgré ça, la densité de population sur le territoire est trop faible pour qu'on imagine un réseau de transport en commun très très développé. Donc il faut trouver d'autres systèmes avec des plateformes, par exemple, de multi-transport.
Pourquoi pas, plateforme multitransport, avec bien sûr aussi une volonté de peut-être de changer techniquement les équipements, passer à la méthanisation et valoriser tout ce qu'on peut produire comme méthane avec les récupérations de déchets, organiques, enfin valoriser les déchets organiques. Donc des projets de méthanisation qui pourraient permettre à des bus ou des camions de fonctionner de la sorte. Et justement aussi de valoriser la richesse, notamment cette richesse agricole du territoire.
Vous êtes président de la commission économie au Parc naturel régional des Grands Causses, Philippe Ramondinck, et le développement économique n'a pas toujours été compatible avec la sobriété énergétique, loin s'en faut. Parallèlement, certains économistes nous expliquaient jusqu'à une date récente que l'énergie chère nuisait à l'économie. Les mêmes économistes nous expliquent aujourd'hui que le prix bas du pétrole est tout aussi, voire plus nocif pour l'économie. Selon vous, est-il possible que le développement économique s'affranchisse du coût énergétique ?
Moi, je pense que oui. En valorisant les richesses du territoire, donc tout simplement, et des richesses sur le territoire, on en a. On en a parce qu'on produit des déchets organiques, on a du bois, on a la volonté de... vous savez, il y a un slogan, moi j'ai un certain âge maintenant, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Mais des idées, on en a, il faut les mettre en pratique. Mais la plus grande difficulté pour justement s'affranchir de ce contexte international qui nous étouffe, hein, je veux dire, moi je suis la génération de la crise, j'ai connu que ce mot et on en a un peu assez, quoi. On aimerait bien changer tout ça, tout en préservant aussi l'environnement, donc pour les laisser à nos générations futures, laisser une terre propre, dans un environnement propre, mais aussi avec la possibilité de pouvoir se développer de manière sereine et équilibrée, parce que je crois que dans ce monde-là, c'est l'équilibre qui nous manque. Donc oui, forcément, je pense qu'on peut s'affranchir. Une autre voie est possible, je crois sincèrement, et j'ai personnellement, j'y travaille, bon, au sein du parc, mais aussi au quotidien, dans mon établissement, justement pour faire comprendre que ce travail sur les nouvelles énergies, sur le bois, sur le réseau bois, sur le photovoltaïque, sur l'éolien, sur tout ce qui est la nouvelle production d'électricité, tout ça, ça sera créateur d'emplois et il faut, je pense, insister là-dessus. Mais aussi mettre en lien tout le monde, les principaux fournisseurs d'énergie, et bien se rendre compte qu'on n'a plus le droit d'étouffer les territoires, mais au contraire de travailler avec les gens sur ces territoires et de leur donner aussi la possibilité de se développer sans forcément être toujours soumis à des pressions extérieures, quoi. Donc, alors c'est pas du nationalisme, hein, c'est pas ça du tout, hein, mais c'est justement vers un nouveau mode de production plus équilibré qui prenne en compte aussi chaque particularité de chaque territoire. Je crois que c'est le rôle aussi de l'ensemble des parcs naturels régionaux de France.
Merci beaucoup Philippe Ramondinck pour cette présentation du plan climat énergie territorial. On va continuer à parler éco-gestes. Vous restez avec nous bien sûr, on en parlera dans quelques instants avec nos autres invités, Victor Magimel, Gilles Guillot. En attendant, on va faire une petite pause musicale.
Sur des forums, ni à m'astreindre à suivre tous les décorums. Je les vois atteindre le point Godwin lamentablement. Les murs de leur vie sociale s'effondrent inexorablement. Je me sens pas concerné, je me sens consterné. Je vais pas me prosterner devant mon devis gangréné. La grandiloquence du monde fait de moi un remplaçant. Au banc de la société, j'attends la troisième mi-temps. Je veux pas qu'on vende une existence 2.0. Je suis le fils du 26. siècle, pas de ground zero. Je reste hermétique à leur peur par satellite. Ils veulent salir nos esprits pour les passer au labo magique. C'est comme ça que ça se passe, du biberon à l'épitaphe. On reste des petites dames déboussolées, cherchant leur place. Les stratagèmes fleurissent, la vanité montre ses épines. Je demeure de la mauvaise herbe qu'on arrache à ses racines. Pas marque les bourses, jongle avec mon futur. Et que les rêves s'effondrent sous le poids des factures. Je peux laisser mon destin entre les mains du pognon. À espérer le feu sacré m'éteindre comme un Cro-Magnon. Je m'abandonne dans mes onirismes utopiques, en caressant les lettres au milieu des chiffres et des statistiques. Pour être né entre Tchernobyl et la chute du mur de Berlin, je me situe entre l'ironie des frontières et le monde demain. Bref, j'aspire à autre chose que ce qu'on nous a programmé. Vivre loin de leur existence aseptisée. Je vais pas rêver de diamants sur canapé. Je vais juste écouter mes mélopées sous canopé. J'espère que la folie du monde ne m'atteindra pas. Je bâtis mon petit monde à chacun de mes choix. Je m'isole de leurs ondes qui me suivent pas à pas. Sous la canopée, je profite mes mélopées. J'espère que la folie du monde ne m'atteindra pas. Je bâtis mon petit monde à chacun de mes choix. Je m'isole de leurs ondes qui me suivent pas à pas. Sous la canopée, je profite mes mélopées. Attiré par les baisers sucrés de Babylone, comme un junkie en perpétuel sevrage de méthadone. Je suis un agoraphobe dans la foule du capital. Ce monde va trop vite, me sape le moral. Je fuis la multitude, je médite sur les monticules. Je construis ma vie à mélanger mes peurs du ridicule. Je m'éloigne de la canopée, le noyau des humains. Car trop les côtoyer anticiperait ma fin. Je savoure ces mélopées, les yeux fermés. La mélancolie de la musique, c'est mon âme blessée. La simplicité des plaisirs, de nos actes, de nos gestes. Je carbure à l'amour, je me contrefous du reste. J'espère que la folie du monde ne m'atteindra pas. Je bâtis mon petit monde à chacun de mes choix. Je m'isole de leurs ondes qui me suivent pas à pas. Sous la canopée, je profite mes mélopées. J'espère que la folie du monde ne m'atteindra pas. Je bâtis mon petit monde à chacun de mes choix. Je m'isole de leurs ondes qui me suivent pas à pas. Sous la canopée, je profite mes mélopées.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Une autre vie s'invente ici. Nous parlons éco-gestes et sobriété énergétique dans cette série d'émissions consacrées à l'équilibre énergétique sur le territoire du parc naturel régional des Grands Causses avec nos invités Victor Magimel, Gilles Guillot, Philippe Ramondinck. Alors Victor Magimel, pouvez-vous retracer pour nos auditeurs l'historique du défi famille à énergie positive, puisque ce défi est au cœur de cette démarche de sensibilisation à la sobriété énergétique?
Oui, alors le défi famille énergie positive, à la base, il me semble que ça a été inventé en Belgique. La première édition a été faite à Bruxelles. Et ensuite, il y a une association française qui est basée en région Rhône-Alpes, qui s'appelle Prioritaire, qui a lancé une première édition de ce défi à Grenoble, qui a assez bien marché. Et du coup, ils ont réussi à obtenir des subventions pour développer ce défi dans toute la France. Sur le territoire du parc, ça fait la quatrième année que le défi est lancé.
Donc au départ, c'était une démarche associative, en fait.
C'est une démarche associative et ça reste toujours plus ou moins une démarche associative dans le sens où on est associé à Prioritaire, donc le Parc Naturel Régional des Grands Causses et l'Espace Info Énergie de l'Aveyron. On est associé à Prioritaire pour mener ce défi sur le territoire. Donc concrètement, en fait, le défi, c'est un concours d'économie d'énergie. Donc l'objectif, c'est d'économiser de l'énergie par équipe. Souvent, les équipes, c'est très souvent des groupes d'amis, des collègues, des voisins ou... Il y a même
Le terme famille n'est pas limitatif, en fait. On n'est pas obligé d'être une famille pour participer à ce défi.
Non, on n'est pas obligé d'être une famille. Il y a des personnes seules qui sont intégrées dans des équipes. Et donc le principe, c'est que ces familles réunies par équipe doivent économiser le plus d'énergie possible à la maison pendant une saison de chauffe. Donc on a commencé au tout début du mois de décembre et ça va terminer à la toute fin du mois d'avril. Et en utilisant, donc c'est simplement en modifiant ses habitudes, c'est ça qui est très important, c'est par des gestes et des comportements du quotidien. On ne demande pas aux gens de rénover leur maison ou d'investir dans quoi que ce soit, c'est simplement agir sur toutes les démarches du quotidien qui font qu'on peut atteindre la sobriété énergétique, en fait.
Le fait d'avoir choisi cette saison de chauffe, c'est pas un hasard, c'est là où se concentre l'essentiel des dépenses d'énergie pour les foyers, c'est ça ?
Oui, puisque finalement la plus grosse dépense, le plus gros budget d'une famille en énergie, c'est bien sûr c'est le chauffage et les transports. Et donc surtout sur un territoire comme ici, bon là cette année c'est pas trop le cas, mais on peut avoir des hivers très rudes qui font que les budgets chauffage augmentent de manière exponentielle.
Et il y a une forte précarité énergétique aussi sur le territoire.
Il y a une précarité énergétique, effectivement. Et l'idée du défi Famille Énergie Positive, c'est justement de permettre aux gens qui sont dans cette situation, au moins de comprendre qu'il y a des petites actions, des petits gestes qui finalement ne sont pas grand-chose et qui ne demandent pas énormément d'investissement, même voire pas d'investissement du tout. C'est souvent du bon sens. Qui permettent à la fois d'être plus efficace chez soi dans sa manière de se chauffer, dans sa manière de consommer de l'énergie. Et du coup, ça se ressent bien sûr sur la facture, puisqu'on peut avoir jusqu'à 250 €, il me semble, d'économie par an sur sa facture d'électricité.
Ce qui correspond à peu près à quoi en termes de sur une facture de chauffage, par exemple quel pourcentage à peu près ça dépend évidemment des modes modes de chauffage, mais c'est essentiellement du fioul et de l'électricité qu'on trouve, non ?
C'est essentiellement, je dirais essentiellement de l'électricité et du gaz pour le chauffage. Du fioul, il y en a un petit peu. Après, ça dépend, puisque là cette année, on a beaucoup de gens, je dirais, urbains, entre guillemets, donc qui sont plutôt chauffés à l'électricité et au gaz. Mais on a bien sûr des gens qui sont chauffés au granulé et au fioul, et même au bois bûche aussi, bien sûr. Et pour répondre à votre question sur l'économie d'énergie, en fait, l'objectif que s'était fixé prioritaire, c'était 8% d'économie d'énergie. 8% d'économie, c'était comme les 8% du protocole de Kyoto. Sachant que les 8%, ils sont en général assez facilement atteints et qu'on arrive plutôt...
À la différence du protocole de Kyoto.
Voilà, justement, comme quoi les gens peuvent agir et réussir à faire des choses. On est plutôt aux alentours de, par exemple, là cette année, on est à 12,9% d'économie d'énergie sur les familles engagées, donc à mi-parcours.
Et est-ce que vous voyez une progression ? Parce que c'est pas la première fois que ce défi se déroule sur le territoire du parc. Est-ce que vous voyez les choses progresser en termes d'économie d'énergie ou d'implication peut-être des familles du fait que l'information est relayée de plus en plus ?
Alors c'est assez difficile de répondre à ça parce que c'est pas les mêmes familles qui participent tous les ans. Donc effectivement, si on avait une même famille qui participait sur les 4 années, je pense que oui, il y aurait peut-être une augmentation, mais comme je disais tout à l'heure, c'est agir sur la sobriété énergétique, c'est-à-dire c'est des petits gestes et pas de l'efficacité. On va pas demander aux gens de changer des choses chez eux. Donc une fois qu'on a compris qu'en baissant la température de son chauffe-eau, en calfeutrant peut-être certaines portes, en repérant quels sont les gros points de dépense chez soi, une fois qu'on est arrivé à ça, bon déjà on peut arriver jusqu'à 15% d'énergie et c'est déjà une bonne chose. Et ensuite, souvent il faut quand même passer à des investissements autres.
Oui, c'est ça. C'est important de le dire parce qu'il n'est pas question de faire en sorte que les gens engagent des gros travaux de rénovation de leur bâtiment. Ça fait l'objet d'une autre démarche. Là, en fait, tout le monde peut participer.
Tout le monde peut participer. Et puis surtout, c'est très important de dire que le défi, en fait, c'est quelque chose de convivial. C'est à chaque fois qu'on se réunit, c'est pas un cours magistral. On discute un petit peu de ce que chacun fait chez soi. On regarde quels sont les différents pôles de dépenses sur lesquels les gens pourraient agir, mais après ça se termine autour d'un repas et on discute de manière conviviale.
Oui, c'est-à-dire qu'il faut aussi en même temps adapter les gestes à chaque équipe de participants d'une certaine manière, parce que tout le monde n'a pas les mêmes, peut-être on en parlera avec Gilles Guillot tout à l'heure, tout le monde n'a pas les mêmes pratiques ou le même environnement de vie quotidienne.
Oui, ça c'est sûr, mais ce qui est aussi assez frappant, c'est qu'il y a beaucoup de gens en fait qui pensent être hyper efficaces chez eux à travers plein de choses, et puis finalement quand on leur dit « mais est-ce que vous avez baissé la température de votre chauffe-eau ?» et puis ils se rendent compte qu'en fait non, qu'ils n'ont pas non plus dégivré leur congélateur, alors qu'en fait c'est des choses qui ça se voit vraiment sur la facture d'électricité, quoi.
Alors comment est-ce qu'on joue concrètement, parce qu'on veut parler de jeu pour ce défi Famille Énergie Positive, comment ça se passe ?
Alors, donc on s'inscrit sur le site internet du défi Famille Énergie Positive. Et ensuite on va nous demander de récupérer nos factures de l'année passée pour en fait indexer nos consommations de l'année passée en fonction de l'énergie qu'on dépense. Donc par exemple, quelqu'un qui est au gaz et à l'électricité va devoir rentrer ses dépenses sur minimum 6 mois, on va dire, de l'année passée. Et ensuite, à partir du 1er décembre, il va faire des relevés de compteur le plus souvent possible, on va dire, tous les mois, c'est bien. Et ensuite, le site internet sur lequel on rentre ces relevés, en fonction du climat, en fonction de l'hiver, va modifier, mouliner un peu tous les résultats et on va avoir une comparaison par rapport à l'année passée.
Ça, c'est quelque chose, cette gestion-là, elle se fait en direct ou c'est l'algorithme qui génère ça ?
Il y a un algorithme, oui, qui est prévu, qui est en fait le site internet qui a été monté par Prioritaire.
D'accord. C'est un outil qui est...
C'est un outil. Et il y a même des gens qui sont pas forcément présents aux événements cette année, mais qui continuent d'utiliser le site internet parce que c'est un très bon indicateur pour sa propre consommation. Et c'est un outil assez efficace pour ça, en fait, parce qu'on peut savoir où j'en suis par rapport à l'année dernière...
Ça joue un peu le rôle d'un observatoire de la consommation d'énergie,
ouais,
c'est ça ?
Voilà. C'est assez efficace pour ça, oui.
D'accord. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consistent les éco-kits qui sont mis à la disposition des participants ?
Ouais, alors il y a deux types d'éco-kits. D'abord, il y a on distribue des outils au tout début du défi. On distribue quatre outils différents qui sont un wattmètre, un thermomètre infrarouge.
Donc, comment ça marche un wattmètre ?
Alors, un wattmètre, c'est simplement un petit boîtier qu'on va brancher entre la prise et l'appareil et qui va nous indiquer sa consommation en temps réel. Et l'intérêt du wattmètre, c'est pour pouvoir détecter les veilles, pour connaître, par exemple, ma télé qui a la petite DEL allumée toute la journée. Moi, j'ai l'impression que ça consomme rien. Puis en fait, on se rend compte, grâce au wattmètre, que en cumulé, on arrive à une petite consommation qui représente quand même quelque chose sur sa facture. Et puis surtout, quand on additionne toutes les veilles qu'on peut avoir dans son domicile... On se rend compte que c'est assez conséquent. Un thermomètre infrarouge, donc c'est une sorte de thermomètre pistolet avec un petit point laser qui permet de mesurer la température de surface, qui est assez utile. Bon, c'est pas non plus une caméra thermique, mais qui est assez utile.
C'est parce qu'on utilise dans le... j'arrive plus à retrouver le nom, les nuits de la thermographie.
C'est
beaucoup moins perfectionné.
C'est comme si c'était le petit à côté de ça. En fait, on mesure la température de surface, donc c'est utile pour connaître la température de son frigo, la température de son congélateur, la température de l'eau qui sort du robinet. Et puis on peut quand même voir si un mur est très froid. Si chez soi, on a un mur qui est à 12 degrés, effectivement, on se rend compte que là, il y aurait potentiellement quelque chose à faire. Voilà. Ensuite, un débitmètre, c'est tout simple, c'est un sac en plastique. On ouvre le robinet pendant 10 secondes, on laisse le sac dessous. Et puis, en fonction de la quantité d'eau qui est dans le sac, on sait si notre débit est trop important ou pas assez. Et ça, ensuite, ça peut se régler. Et le mieux, c'est de garder cette eau qu'on a dans le sac pour arroser les plantes derrière, si on veut aller jusqu'au bout.
Et comment on règle ça, par exemple, pour un particulier ? Est-ce qu'il faut faire intervenir un professionnel ou on peut le faire chez soi directement ?
Alors, on peut mettre un mousseur, c'est le plus facile. On met un mousseur sur le robinet et là, voilà, ça réduit... du coup, on a besoin de moins ouvrir le robinet pour avoir... la même sensation de débit, en fait, la même sensation de... on a l'impression qu'il y a la même quantité d'eau qui s'écoule, alors qu'en fait, on fait de l'économie. Et ensuite, le dernier outil qui est très important, c'est le guide des 100 éco-gestes. Et ce guide-là il indique vraiment toutes les petites choses qu'on peut faire chez soi. Donc quand on le lit comme ça, on se dit oui, il y a plein de choses que je fais, mais en fait, il y en a plein d'autres qu'on fait pas, et c'est sur ces petites choses-là que...
C'est un peu la Bible des familles à énergie positive.
Voilà, oui.
Alors, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut citer comme éco-geste parmi ces 100 Ça fait beaucoup, 100.
Parmi les 100, c'est vrai que ça fait beaucoup. Alors, moi, il y a un truc que j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais c'est sur la température du chauffe-eau, parce qu'il y a beaucoup de... j'ai l'impression qu'il y a un gros mythe par rapport à ça, où les gens ont l'impression qu'il faut que le chauffe-eau soit très chaud pour des questions d'hygiène, et tout ça, ce qui est vrai. Il faut effectivement que le chauffe-eau ne soit pas en dessous d'une certaine température. Mais par d'usine, un chauffe-eau est réglé en général sur 75 degrés. Et donc là, on peut baisser d'au moins 10 degrés. Et
ouais,
donc,
jusqu'à 60.
Jusqu'à 60 sans problème. Ouais. Il y a la chasse d'eau, par exemple, puisque le défi femme énergie positive, ça marche aussi sur l'eau. Il y a l'énergie, mais il y a aussi la consommation d'eau. De la même manière, on rentre sur le site internet. Il y a mettre une brique dans la chasse d'eau, ça fait des économies conséquentes. Hein. C'est assez intéressant. Et puis il y a un truc aussi qui est rigolo, dont j'aime bien parler, c'est mettre du papier alu derrière le radiateur. On prend une planche en carton. Ça fait un réflecteur, ouais. Et on gagne en efficacité. Et puis il y a même des gens qui, par souci d'écologie, récupèrent le papier alu des plaquettes de chocolat pour le mettre sur du carton. On peut même récupérer le carton des plaquettes et le mettre derrière le radiateur. Et
ça marche avec tout type de radiateur.
Oui, ça marche avec tout type de radiateur. Oui. Ça évite les pertes en fait directement dans le mur et ça réfléchit de manière efficace.
D'accord. D'autres éco-gestes qu'on peut citer comme ça ?
Sûrement que Gilles pourra vous en dire plein, mais ouais,
j'ai mis de l'alu partout chez moi, on se croirait dans Star Trek, là.
La maison qui brille.
Enfin, concrètement, par rapport aux gestes, on a fait il y a un quiz avec 100 éco-gestes.
Ouais.
Et à la fin, donc ça se fait très vite, en 20 minutes, sur l'ordinateur, et puis il y a un résultat, et puis ça vous dit ce qu'il faut faire aussi. Ça vous dit, bah tiens. Et du coup, j'ai dû retirer la glace qu'il y avait au fond de mon congèle, donc merci Victor, parce que on le sait qu'il faut le faire tous les X, et puis là c'était marqué tous les deux mois, on s'est dit oulala.
Oui, puis c'est pas mal pour la vie du frigo aussi.
Et c'est pas mal en plus pour la vie du frigo, mais voilà, il y a des petits rappels à l'ordre.
D'accord.
Là, j'en ai une qui me vient, qui est assez intéressante en général. C'est sujet à discussion chez les gens, c'est sur le fait de mettre une prise électrique, vous savez, qui s'éteint la nuit pour, par exemple, pour la box internet.
Parce que c'est le contraire de la veille, en fait. C'est-à-dire que c'est une prise intelligente.
C'est une prise intelligente, mais c'est très fréquent. Enfin, on en trouve partout. Hein. Ça permet de régler en fonction de l'heure à quelle heure on veut que notre appareil électrique fonctionne. Et par exemple pour les box internet, parce que typiquement la box internet est allumée tout le temps. Et puis en général, elle est sur une multiprise où il y a vraiment plein de choses. Et donc, si on met cet interrupteur sur la box, on peut faire en sorte qu'elle s'éteigne la nuit. Alors, certaines personnes disent que du coup, elles se mettent pas à jour et qu'Internet marche mal. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça c'est aussi un pôle d'économie intéressant.
Très bien, merci beaucoup Victor Magimel. Donc on a eu la parole de l'animateur du défi famille à énergie positive, et on va voir ce qu'il en est du côté de l'utilisateur ou du participant, tout au moins.
Du capitaine, s'il vous plaît.
Du capitaine, pardon. Allez, on voit ça dans quelques instants après cette courte pause musicale.
Tradition.
Une autre vie s'invente ici.
L'équilibre énergétique en question.
Et nous parlons éco-gestes et sobriété énergétique dans ce numéro d'une autre vie s'invente ici avec nos invités. Alors Victor Magimel nous a présenté le défi famille à énergie positive, c'était la parole de l'animateur. Et on a avec nous le capitaine d'équipe Gilles Guillot. Donc vous êtes capitaine d'une équipe qui a choisi de se joindre à ce défi famille à énergie positive. Pourquoi justement, à titre personnel, avez-vous choisi de vous investir dans ce défi ?
Alors bonjour à tous, puis si vous me permettez, je voudrais dire un petit coucou à toute mon équipe.
Bah, je vous en prie, allez-y.
Je les remercie de faire partie de notre équipe, ils s'appellent donc les Wattels, hein, parce que quoi de plus important.
Ah, il y a un nom d'équipe.
Oui, on a un nom d'équipe. Donc voilà, c'est les Wattels, le message.
Vous avez fait un maillot peut-être aussi.
Pas encore, mais ça va venir. Quoi de plus important que de laisser bien sûr un monde meilleur à nos enfants, donc on est tous d'accord là-dessus, mais en fait, donc pourquoi participer ? Parce que on est tous conscients de l'enjeu, mais qu'est-ce qu'on fait réellement ? Donc en fait, en rentrant dans ce défi, c'est l'occasion de faire des petits gestes et donc de se sentir mieux. C'est une rédemption. Et puis, il est très sympa. Donc, ouais, le message à faire passer, c'est que pour tous ceux qui veulent les prochains participants, il y en a beaucoup qui se disent, bon, c'est un défi, voilà, c'est compétition, et puis, oh, ma main, c'est un chauffage au fioul, voilà, faut pas que je le dise, quoi. Alors, c'est pas du tout ça, quoi. C'est vraiment, il y a un bon état d'esprit, les outils sont très faciles, on a un super animateur, Victor, qui est à côté de moi, et voilà, il y a quelques réunions au parc, je dirais que le plus gros défi, finalement, vu que les outils sont faciles, c'est facile de faire des économies, donc on y arrive. Qu'on ait un chauffage au fioul ou qu'on ait des granulés bois ou une cheminée, voilà, c'est possible pour tout le monde. La difficulté, c'est de convaincre des coéquipiers que s'ils se disent, bon, bah voilà, je suis un mauvais élève ou voilà, j'en fais pas assez, donc voilà, je vais être exposé, on va me montrer du doigt comme le plus mauvais employé du mois, et, ou alors, oulala, ça va me prendre du temps, etc. Donc c'est vrai qu'il faut se regrouper de temps en temps. Enfin, nous, dans mon équipe, il y a quatre familles. On s'est regroupé une fois. Donc c'est très sympa. Et une fois que c'est fait, on a partagé. En fait, je pense que le plus de ce défi, bon, il y a des outils concrets, hein, comme Victor l'a dit, mais c'est le fait d'échanger, tout simplement, d'échanger sur ses pratiques. Et ne serait-ce que quatre familles, on apprend des autres, quoi. On a beau se dire, bah, moi, j'éteins la lumière, voilà, je laisse plus la lumière allumée. Bon, ben, ça, on le fait tous, mais il y a des petits trucs.
Donc, je prends. Vous avez commencé quand ce défi?
On l'a commencé il y a deux mois, hein. Donc, moi, en fait, concrètement, voilà, j'envoie quelques mails pour se réunir. Bon, c'est réuni une fois. Mm-hmm. Sinon, au niveau des mesures, bah, je pèse mes granulés. C'est simple. C'est des sacs de 15 kilos pour moi. Voilà, c'est assez simple.
On a les mêmes ici.
Voilà. Donc, je me suis inscrit sur le site internet. Il suffit de mettre une adresse mail et un mot de passe. Et ensuite, dans la case granulée, j'ai marqué voilà, 150 kilos pour le mois de décembre. Et puis là, j'ai fait un relevé pour janvier. Et je ne vous prends que l'exemple du granulé, mais sinon, je regarde mon compteur d'eau et mon compteur d'électricité. Donc voilà, finalement, il me faut 5 minutes à chaque fois. Il suffit de le faire.
D'accord. Donc, en dehors de ça, quels sont les autres gestes que vous avez mis en pratique ?
Alors, suite au quiz, hein, il y a un quiz de 100 questions. Et à la suite du quiz, on vous dit, bon, bah, là, c'est bien, là, c'est moins bien. Qu'est-ce que vous pourriez faire ? Donc, du coup, j'ai dû retirer la glace qu'il y avait au fond de mon congélateur. Voilà, que j'avais pas fait depuis un petit moment, et donc ça m'a rappelé à l'ordre. Ensuite, il y a le prochain atelier, ça va être la VMC que voilà, que je n'ai pas qui marche. Elle a un défaut, elle marche en continu. Donc pour l'instant, Isabelle, ma copine, connaissant mes talents de bricoleur, elle a mis quand même un scotch sur l'interrupteur parce qu'elle sait que je vais mettre un petit peu de temps avant de me mettre aux travaux, mais voilà.
Donc ça, c'est une VMC simple flux ou...
Oui, ouais, mais il y a un bouton, si vous voulez, on peut l'éteindre. C'est-à-dire que si tu pars trois jours, tu n'es pas là pendant trois jours, ça ne sert à rien qu'elle tourne. Ou des fois la nuit, voilà, tu l'éteins et puis le matin, tu ouvres tes fenêtres. Et puis après, bon, ben, tu la mets quand il y a du monde, quand tu cuisines, etc. Mais bon, celle-là, elle ne marche plus, elle marche en permanence à fond. Donc voilà, ce sont des petites choses que... mais après, voilà, bon, voilà, c'est ceux qui me viennent en tête.
Les outils dont parlait Victor tout à l'heure, le wattmètre par exemple, comment est-ce que vous l'avez utilisé ?
Alors le wattmètre, eh ben, c'est simple, on le branche sur les appareils. Par exemple, moi j'ai un chauffe-eau thermodynamique, enfin, c'est une maison qui a 4-5 ans, donc voilà, elle a des outils assez récents, donc c'est une toute petite pompe à chaleur qui chauffe l'eau. Bon, ben, quand vous l'achetez, ce truc-là, c'est dit, ouais, c'est fantastique, ça fait 50, ça consomme 4 fois moins. Bon, ben là, c'est l'occasion de vérifier si c'est vrai. Justement, ça permet de vérifier que quand tu passes de la température, il était réglé, c'est vrai, il était réglé sur 65 degrés. Bon, moi, je l'ai baissé sur 55, donc je l'ai fait il y a un mois. Donc, on va pouvoir vérifier grâce au wattmètre si effectivement, sur une semaine de consommation, ça vous dit il a consommé tant de watts. Sur une prise qui marche, par exemple, votre ordinateur, si vous en servez pendant 2 heures, vous pouvez calculer la consommation de votre ordinateur, du frigo, voilà, vous pouvez tout calculer.
Et le thermomètre à infrarouge, est-ce qu'il a révélé des choses auxquelles vous attendiez pas ?
Bah, c'est-à-dire qu'effectivement, le quiz, il y a un guide, on vous dit, mettons, le frigo, en haut, en bas, il faudrait qu'il soit, il y a des compartiments dans le frigo, ça sert à rien qu'il soit à moins de 7 degrés, si mes souvenirs sont bons. Et souvent, dans le doute, qu'est-ce qu'on fait ? On ouvre le parapluie, on le met à 2 degrés partout, puis on se dit comme ça, voilà, les aliments, ils vont tenir plus longtemps. Et ça sert à rien, donc avec le thermomètre, c'est comme un petit pistolet, là, paf, on appuie, et ça nous dit, voilà. Donc, bah, là, du coup, on règle le frigo.
Alors comment est-ce que vous participez à ce défi en famille ? Comment est-ce que vous impliquez les enfants dans le défi ?
Alors, bah, ça permet d'en parler. Alors bon, moi j'ai un garçon de 7 ans à la maison. Et d'ailleurs, je lui dis bonjour Timothée. et si vous voulez, donc il a mis un petit peu de temps à rentrer, parce que c'est vrai qu'à 7 ans, voilà, bon, on lui a bien répété pour les lumières, etc. Et là, enfin, pas plus tard qu'il y a 2 jours, il est rentré dans le défi. Donc lui, c'est par la porte informatique, étant donné que l'ordinateur, c'est un peu magique pour lui. Okay. Et donc, il a vu qu'en tant que capitaine, j'avais accès au site, enfin, comme tous les participants d'ailleurs, hein, mais... Et ça, voilà, ça l'a interrogé, donc il a fallu que je lui explique les graphiques. Étant donné qu'effectivement, alors ça c'est sympa, je voulais aussi le dire, c'est que moi dans mon équipe, j'ai des familles, des participants qui sont carrés, voilà, des gens très sérieux, mm-hmm. contrairement à moi.
Est-ce que ça aide ?
Eh bien ça aide parce que finalement, ils sont pris par l'outil. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est magique, on peut rentrer ces données n'importe quand, tous les 2 jours, hein, si on le veut. Et du coup, l'ordinateur calcule si vous êtes à moins 8,5 ou moins 12% par rapport à... Ça tient compte de la température, de la météo qu'il y a eu l'année passée quand vous avez rentré vos données de l'année passée. Et tout ça, ça calcule et ça vous dit, oui, vous en êtes là. Donc, on peut suivre sa consommation. Donc, on peut vraiment regarder ce qu'on consomme et ça le met en plus en parallèle par rapport à l'année passée.
Donc, et là, 2 mois, vous nous disiez, depuis le début du défi. Est-ce que vous avez des factures qui sont arrivées entre-temps ? Est-ce que vous avez pu voir une différence ou
non,
c'est trop tôt encore ?
Là, c'est trop tôt. Moi, je sais que je suis à moins 10%. Donc, d'accord. L'ordinateur a calculé moins 10%. Voilà. Sur,
ce qui est pas mal. Hein,
sur 2 mois de défi.
Et ça va se cumuler, ça, en fait, au fur et à mesure du déroulement du défi ? Victor, peut-être ?
Oui, ça, en fait, ça se cumule, jusqu'à la fin du défi, quoi, jusqu'au dernier relevé, le 30 avril. Toutes les économies qu'on a faites se cumulent. Et puis surtout, elles se cumulent par équipe. Et je confirme que leur équipe est bien placée.
Et voilà, alors moi j'ai aussi un petit message pour Cyril, parce que lui il n'a pas fait son relevé. Et donc Cyril, si tu m'entends, peux-tu voilà. faire le relevé ? Merci.
S'il te plaît Cyril, ouais, merci.
Alors justement, donc vous jouez bien votre rôle de capitaine d'équipe. Donc ça signifie que vous avez un rôle moteur au sein de cette équipe. Et comment, voilà, on en a eu un exemple, mais comment est-ce que vous entretenez la motivation de votre équipe ?
Alors c'est vrai que c'est pas évident parce que on a tous des vies, on est super bookés quoi aujourd'hui et là tout d'un coup on se dit bon bah super on va faire le défi, on va faire une bouffe par mois mais on le tient pas quoi, c'est difficile, 4 familles, on a plein d'impératifs et on n'est jamais libre en même temps, donc on a quand même réussi à en faire une et voilà c'est super parce qu'il y a des gens qui ne se connaissaient pas, donc voilà c'est vraiment l'occasion de retrouver un peu de lien. Et de parler un petit peu, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait pour la planète au niveau de sa maison, quoi. Et après, pour les motiver, bah oui, c'est les relancer, en fait, c'est ça, c'est du travail.
Prendre
de...
le téléphone ou ouais, alors, envoyer un petit mail.
Le mail, ouais, mais ouais, voilà. Ouais. Mais c'est pas grand-chose, mais il faut se botter les fesses pour le faire, quoi, voilà, c'est tout.
Et ça, les réunions, enfin, les échanges que vous les avez organisés au préalable, au début du défi, ou c'est au fil de l'eau, comme ça, que les choses s'organisent ?
Oh, c'est au fil de l'eau, c'est-à-dire c'est vrai que quand on, en tant que capitaine, on est coaché par Victor et bah, il nous dit bon bah voilà vous allez rencontrer des gens que vous connaissez, des voisins, des amis, vous allez leur parler du défi, vous allez voir, ils vont avoir telle réaction et c'est vrai, il a pas tort, c'est-à-dire que waouh là ça va prendre du temps, un ordinateur, se connecter. mais voilà, rassurez-les. Nanana. Et puis après, essayez de vous rencontrer, parce que c'est vrai que j'en reviens. Je dirais que le but, c'est vraiment de pouvoir discuter d'un enjeu avec des gens. Le défi, c'est un prétexte, quoi. Le fait de gagner, même si moi, bon, même si moi j'ai envie de gagner, quoi. Mais sinon, et puis c'est vrai qu'on se rencontre aussi une fois tous les deux mois. Enfin, les capitaines, ouais, c'est un peu plus souvent, mais sinon au niveau d'une famille, elle va se rencontrer tous les deux mois.
On se rencontre trois fois, ouais, sur la session du défi. Ouais. Okay.
C'est très sympa. On mange bien, et puis il y a plein de conseils, et puis il y a même des ateliers. Mais Victor, tu vas en énoncer le dernier. Alors, nous avons fait.
Oui, Victor, comment ça se déroule une rencontre donc avec les familles à énergie positive?
Alors, par exemple, la rencontre demi-parcours, on a d'abord un petit peu fait des rappels parce qu'il y a des gens qui ne sont pas venus à la première, donc on fait un petit peu des rappels sur le défi, sur ce que c'est et puis où on en est, donc au niveau national, parce qu'il y a des chiffres au niveau national, où on en est au niveau local, qu'est-ce qu'on a fait comme économie, et ensuite on a annoncé donc le podium intermédiaire. Et ensuite, on a fait une petite activité confection de produits ménagers écologiques pour montrer aux gens en fait que il y a les économies d'énergie, les économies d'eau et tout ça, c'est très important. Mais il y a aussi d'autres facteurs, il y a aussi d'autres choses sur lesquelles on peut agir au quotidien.
Donc là, vous faites appel à des intervenants extérieurs. Comment ça se passe?
Non, c'est moi qui.
C'est quelque chose que vous avez préparé en interne.
Oui, c'est quelque chose qu'on a préparé en interne. On fabrique un produit nettoyant multi-usage à base de vinaigre, bicarbonate et savon noir. Un peu d'huile essentielle. Et voilà, et j'espère que les gens s'en servent et qu'ils en sont contents.
D'accord. Gigliou, est-ce que vous connaissiez au préalable les membres de votre future équipe, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez créé par affinité, ou vous êtes retrouvé par hasard avec des gens que vous ne connaissiez pas?
Alors oui, il y en a que je connaissais avant, mais ensuite il y en a que je connaissais par l'école, en amenant mon enfant à l'école. Mm-hmm. Donc du coup, je les connaissais de vue et je me suis dit, tiens, voilà, c'est sympa.
Ça veut dire qu'au niveau géographique, vous occupez une même zone géographique, ou vous êtes répartis sur...
Alors je savais sur les conseils de Victor que c'était plus facile si on était membre d'un même quartier, parce qu'effectivement, justement, pour ces réunions, c'est plus facile. Là, c'est pas le cas, c'est-à-dire qu'on est trois à Saint-Georges, mais le quatrième est à Millau. Effectivement, le jour où il est venu, il neigeait, et voilà, donc c'était... Voilà. Mais il est quand même venu. On pouvait l'héberger, hein, notre maison est bien isolée, et voilà.
Alors, donc au cours de... Alors, il y a eu une réunion donc, avec les membres de votre équipe, vous échangez sur vos pratiques, est-ce que vous avez des petits trucs à vous passer les uns aux autres des choses que vous auriez pu découvrir chacun dans votre coin, ou comment...
Oui, effectivement, tous, si en plus, là on est dans un coin où il y en a qui sont en appart, d'autres en maison individuelle, donc bien sûr, on a dit, qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que toi tu mets un drap devant la fenêtre, le rideau devant la porte, le petit truc qu'on met en bas de la porte, des choses comme ça, bon, chacun y va de tout ce qu'il a fait, et puis ceux qui ont installé, en ce moment, il y a le poêle à granulés, alors il y en a qui ont je pense à une famille qui a repris une maison des années 70 qu'est-ce qu'ils ont fait comme une économie, mettons, de fuel. Le jour où ils ont installé un poêle à granulés, quoi. C'est-à-dire que voilà, ce genre de choses. Donc il y a plein d'échanges qui se font à ce niveau-là.
Donc on prend des idées chez les uns et chez les autres.
Ou on valide les siennes. Ça encourage, quoi.
D'accord. Et est-ce que, parce que là on est sur du court terme puisqu'on est sur une saison de chauffe, mais est-ce que vous pensez que ça peut aussi agir sur le long terme, sur les choix qu'on est amené à faire pour
En fait,
pour le futur,
Bien sûr, oui, tout interagit. Je dirais même que on parle là de. Pour l'instant, on rentre dans le logiciel, on rentre l'eau, les dépenses comme ça, le fuel, le bois, etc. Mais au repas, en fait, on a aussi beaucoup discuté de comment on fait pour se déplacer. En fait, ça va en dehors, vu que c'est un prétexte pour parler de l'enjeu sur la locomotion, le covoiturage. Voilà, on aborde tous ces sujets, même si pour l'instant, au défi, on n'en a pas parlé, mais je crois que ça va venir. L'éco-conduite, par exemple. Mmh. Voilà, l'éco-conduite, chacun va avoir son opinion. Donc ceux qui ont déjà fait des stages, ils vont vous dire...
Oui, tout le monde est un très bon conducteur.
Voilà, moi le premier, j'ai une éco-conduite, sauf quand je suis pressé tout le temps.
Et d'ailleurs, à propos d'éco-conduite, j'en profite pour dire qu'un samedi du mois d'avril, la date n'est pas encore calée, mais on va organiser un événement autour de l'éco-mobilité, de l'éco-conduite, avec donc essai de ces simulateurs et essai aussi de vélo-assistance électrique pour ceux qui veulent.
D'accord.
Voilà.
Très bien. Tout à l'heure, Gilles Guillot, vous me disiez que une des motivations, c'était pour se sentir mieux. Mmh. Est-ce que ça rend heureux, le défi Famille à Énergie Positive ?
Bien sûr, dès qu'on fait une action, qu'on sent bon pour soi et pour les autres, on est heureux, quoi. Voilà, c'est ce qui nous manque aujourd'hui dans nos vies. On est tous à fond sur notre boulot et tout. Enfin, ça, c'est une bonne chose qu'on soit à fond sur notre boulot. Le fait de partager quelque chose et le fait d'aller dans le bon sens, c'est bien, parce que c'est vrai que moi, je m'aperçois autour de moi, tout le monde est d'accord que ce serait dommage que la Terre explose dans 50 ans. Enfin, voilà. Par contre, dès qu'il y a des soucis économiques, hein, on s'aperçoit que ça passe un petit peu en second, pour certains. Alors, il y en a d'autres, c'est un cheval de bataille, et voilà, et c'est bien. Donc, du coup, ce défi, ça permet de faire des petits gestes, et puis on sait très bien que dès qu'on commence à faire, quand on est dans le faire, bah, ça va mieux, quoi. Parce que sinon, on est dans le fantasme, on est dans le parler, et voilà. Donc ce défi, c'est l'occasion de faire des petits gestes, mais c'est un début. Et puis du coup, voilà, c'est pour ça que je pense que ça peut se concrétiser pour la suite, quoi. Des fois, il faut un petit truc pour mettre la main dans l'engrenage.
Donc la recommandation, ou tout simplement ce que vous auriez à dire à ceux qui hésiteraient à participer, qui se posent des questions ?
À fond, à fond dans le défi. non, mais c'est vrai que ce que j'ai à dire, sérieusement, c'est que beaucoup de gens, je me suis aperçu, pensent que c'est compliqué, que voilà. Alors que non, ça ne l'est pas, c'est vraiment... c'est très bien fait. C'est très bien fait au niveau informatique, c'est pas sorcier. Et puis on est bien accompagné, je crois que le truc est rodé, quoi, c'est pas nouveau. Voilà, donc c'est facile et puis c'est convivial.
Très bien, mais merci beaucoup. Il me reste à vous remercier tous les trois, Philippe Ramondinck, Victor Magimel, Gilles Guillot. Merci pour votre participation.
Merci
à nos auditeurs de nous avoir suivis. Le prochain numéro d'Une autre vie s'invente ici sera consacré à l'économie circulaire. Je vous rappelle qu'hors diffusion, vous pouvez retrouver toutes ces émissions sur les sites de Radio Sainte-Afrique, de Radio Larzac et du Parc naturel régional des Grands Causses sur la médiathèque, sur la page médiathèque. Merci encore une fois et à très bientôt, chers auditeurs. Thank you.
Thank you.